RMC.
Vu qu'on n'est pas non plus pressé, ça peut bouger assez vite.
C'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cette étape, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial.
Et je considère Dimitri un des génies modernes du football.
After Marseille,
Nicolas Villas.
C'est l'heure de votre podcast After Marseille. Vous le savez, on est là chaque semaine sur votre appli. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. On vous le dit, on vous le répète chaque semaine, mais vous battez les records, vous pétez les records. On vous remercie d'être là. N'oubliez pas de nous suivre. Cette semaine avec nous, notre Roland Courbis. Salut Roland.
Salut les amis.
Ça va Roland ?
Salut à tous, ça va ?
Tout roule ?
Bah oui.
Ouais. Romain Canouti également est avec nous. Salut Romain.
Salut Nico. Salut Roland.
Ça va toi aussi ?
Salut Romain.
Très content puisque les podcasts de Virage Marseille s'arrêtent là puisqu'il n'y a plus d'émissions fin de saison. Et ils ont battu tous les records eux aussi. Donc voilà, on peut enchaîner avec ce d'After Marseille.
Dans cet épisode, on va revenir sur une info qui a fait beaucoup de bruit. Le 7 juin, la Provence titrait. Christophe Galtier figure parmi les possibles successeurs d'Igor Tudor à l'OM. L'entraîneur de 56 ans est en partance du Paris Saint-Germain et voilà qu'il figure dans la liste de Pablo Longoria. Une info qui a fait du bruit. Tiens, réaction Jérôme Rotten dans Rotten sans flamme.
Une année sur l'autre comme ça, sans avoir un club entre les deux, pour moi c'est impossible.
Ouais.
Bah, il faut faire nourrir cette rivalité, encore une fois, et ça fait partie du football français, du paysage du football français. Et moi, je comprends pas. T'as défendu le Paris Saint-Germain comme tu me devais le défendre pour un Marseillais. C'était pas facile pour lui. Mais et là, tu vas retourner à Marseille.
Alors, est-ce que Jérôme a raison ? Est-ce que c'est possible de passer direct du PSG à l'OM quand on est entraîneur ? Voilà, cette info a fait beaucoup de bruit ces derniers jours, notamment cette possibilité Christophe Galtier du côté de l'OM. Roland ?
Ben oui, c'est possible, évidemment que c'est possible. Mais on peut penser aussi... que ce soit sur un problème de santé, quand je vois dans quel état a terminé Christophe a terminé la saison, je pensais sincèrement que pour son intérêt, c'était de couper un an, de bien réfléchir, de bien souffler, de bien se reposer et repartir après en se retroussant les manches. La passer dans une intersaison du Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille, sincèrement, c'est surprenant, mais pourquoi pas.
Romain, qu'est-ce que tu penses de ce que dit Jérôme ? Est-ce que c'est possible pour toi ? Ça s'est jamais vu pour un entraîneur, hein. Pour des joueurs ça s'est vu, mais pour un entraîneur de passer direct du PSG à l'OM, ça s'est jamais vu.
Mais en fait, la problématique pour moi est plus grosse que ça, et j'ai écouté cette émission avec Jérôme et y avait Pascal aussi et Eric Dimeco qui défendait un peu tout ça. Et en fait, je me dis que la problématique est tronquée, parce que à chaque fois on est tenté de prendre toujours les mêmes exemples. Loric Sana, Gabi Heinze, qui sont passés d'un club à l'autre, et on dit, rappelez-vous, Angloma, Basile Boli, qui peut supporter le PSG. Mais là, c'est pas pareil, c'est en trois temps, c'est pas en deux temps. C'est un Marseillais qui a joué à l'OM, ouais, qui est parti à Paris, et dont on évoque un retour à l'OM. Donc, quand on parle, par exemple, on fait un parallèle avec Loric Sana, c'est pas Loric Sana, après le Paris Saint-Germain, après avoir été formé au PSG, devenu capitaine de l'OM, ça serait Loric Sana retourne au PSG après avoir été capitaine de l'OM et après avoir été formé au PSG. Voilà, faut rajouter, c'est en trois temps. C'est dans ça que ça devient très fou. Voilà, et c'est en ça que c'est encore moins concevable à mes yeux.
Il y avait eu pas mal d'autres rumeurs hein, par le passé, en préparant ce podcast, on en parlait Romain, d'entraîneurs du PSG qui étaient annoncés à l'OM.
Ouais, il y avait, ouais, c'était un peu farfelu. Il y avait Paul Le Guen en 2009, mais je pense que c'était plus des bruits pour plus annoncer à l'époque le départ d'Éric Guéret.
À l'époque, Pape Diouf, d'ailleurs, qui était président de Marseille, avait dit qu'il était outré. Hein. Il avait émis un communiqué en disant que c'était faux, qu'il y avait une manipulation de l'information pour déstabiliser le club.
Finalement, il n'y a jamais eu ça.
Non, jamais direct. Non, jamais.
Non, il y a quoi ? Il y a tout.
Il y a eu Ivaïch et le Duc. C'est les deux seuls entraîneurs qui ont fait les deux clubs, mais pas directement de l'un à l'autre. Il y a eu une étape intermédiaire entre les deux, quoi. Un autre club, quoi. Voilà.
Ouais, non, mais je veux dire donc de Paris, Marseille ou Marseille et Paris, ça c'est jamais.
Non, pour un entraîneur, non. Non, pour un
entraîneur. Roland, jamais eu de contact avec le PSG ?
Oui, quand j'étais à Toulon.
Ah, ah ouais ?
Ouais. Et c'était à l'époque où il y avait Mombart et...
Ivic ?
Non.
Borrelli ?
Ah oui, Francis Borrelli, c'est lui qui était venu me voir.
Et pourquoi tu n'y es pas allé ?
Mais parce que je ne me sentais pas, ça faisait la deuxième année que j'étais à...
D'ailleurs, tu le racontes dans ton livre, ça, je m'en souviens.
À Toulon, ouais.
Tu disais que tu ne te sentais pas
donc,
prêt.
Bah, sincèrement, quelques années après, oui, mais... Le fait, j'aurais même pas calculé entraîneur de Toulon par rapport au Paris Saint-Germain. Je ne me suis pas vu à cette époque-là entraîner un club aussi important que le Paris Saint-Germain. L'OM m'aurait appelé à cette époque-là où il y avait d'ailleurs Bernard Tapie. Même chose, je serais resté à Toulon pour justement continuer mon apprentissage.
D'ailleurs, petite archive, on a retrouvé la réaction de Paul Le Guen au moment où on l'avait annoncé du côté de l'OM.
Gérard Houllier, donc, qui était avec Montbert dans cette période-là, et ça n'avait pas trop bien marché.
Tu veux la réaction de Le Guen en 2009 quand il a annoncé à l'OM ou pas?
Oui, vas-y.
On va dire, écoute.
Non, c'est pas possible.
Oui, voilà, c'était ça. Voilà, la réaction avec Stéphane Guy qu'on embrasse, bien entendu. Est-ce que finalement le timing, il n'est pas un peu l'ennemi de Galtier également pour aller à l'OM là aussi, là, avec tout ce qui se passe, les questions extrasportives, etc. aussi?
Oui, ben oui. Après, honnêtement, sur cette info-là, je pense que c'est très bien et la réaction de Longoria est totalement à propos. Il faut jamais insulter l'avenir, on le sait très bien dans le football, faut pas avoir de fierté mal placée, il faut surtout pas faire le malin et taper sur Galtier alors qu'il est à terre, alors qu'on sait très bien qu'il peut se relever. Donc quand on lui annonce « Ah tiens, Galtier, ben, il a bien fait », même si c'est peut-être pas vrai, de dire « Non, non, mais oui, on considère éventuellement sa venue », on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc autant écarter aucune piste. Mais en vrai, effectivement, le timing, surtout avec cette histoire-là qui plane au-dessus de Galtier, on voit qu'il y a des conséquences lourdes, parce que je pense que Didier Digard, par exemple, on a bien vu, si on s'amuse à faire le bilan de Didier Digard à Nice avant que cette affaire éclate et après,
ouais, c'est la même.
On voit bien que c'est assez, assez dramatique, ouais. Et que ça lui coûte peut-être son poste. Donc Galtier, c'est pareil, et je pense que voilà, il y a cette histoire-là. Il y a aussi le fait que quand Galtier est revenu à Marseille, il y a eu 2-3... saute d'humeur, on va dire ça comme ça, ou interaction, voilà, avec certains supporters qui sont juste derrière lui en tribune, et que ça, tout le monde les a vus parce que maintenant il y a 87 caméras. Ouais. Je pense que quand Roland est revenu avec un autre club que l'Olympique de Marseille au Vélodrome, il est venu avec Lens, il est venu avec Ajaccio, il est venu avec Rennes. Quand il est venu, il y avait peut-être des mecs postés derrière qui lui donnaient des dons d'oiseaux. Il a peut-être répondu avec un petit signe. Il n'y avait pas 87 caméras et 3 diffuseurs simultanés comme aujourd'hui. Ça a été capté avec Galtier et tout le monde les a vus et tout le monde a la haine contre Galtier.
Juste, on parle de timing. Tout à l'heure, on regardait un petit peu le parcours de Christophe Galtier et tu te demandais, Roland, mais finalement, depuis quand il ne s'est pas arrêté, Galtier? Est-ce que ça ne lui fera pas du bien de respirer? On l'a regardé, en gros, depuis qu'il est arrivé à Lille, cours de saison, il ne s'est plus jamais arrêté.
Je pense que ça lui ferait énormément de bien. Et pendant que je vous écoutais, je réfléchissais aussi à une intersaison où Christophe avait été, disons, critiqué, mais sans que ce soit de sa faute, quand il est parti de Lille, où il y avait une hésitation de sa part entre Nice et Lyon. Et là, déjà, on se demandait pourquoi l'OM ne s'était pas mis sur le
coup. Ouais.
Voilà. Et c'est vrai qu'après, il a choisi Nice. Mais là aussi, il aurait pu venir à l'OM. Et après, on sera en train de discuter, est-ce qu'on peut aller de l'OM à Paris Saint-Germain? C'est peut-être ça.
Peut-être. Alors, il y a un autre nom qui fait beaucoup écho à Marseille ces derniers jours, ces dernières heures même, c'est Marcelo Gallardo. Une piste qui plaît à notre Éric Dimeco, même si lui, il a une autre préférence.
Galette, mon rêve, c'est qu'un jour, il entraîne l'OM. Est-ce que c'est pas trop tôt après le PSG? Je sais pas. Et même si c'est délicat parce qu'il vient de finir à Paris il y a peu de temps, ce sera plus facile pour lui quand même d'être accepté à Marseille en revenant de Paris que ce qui lui est arrivé l'an dernier quand il est arrivé à Paris.
Alors, vous connaissez bien Marseille, les supporters marseillais. Est-ce que finalement, Eric, il a raison? Est-ce que ce serait plus facile pour Galtier de passer du PSG à Marseille plutôt que ça avait été difficile, on va dire, en tant que Marseillais, de débarquer au Paris Saint-Germain? Vous en pensez de quoi, ça, de l'argument d'Eric?
Disons que ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est qu'on ne se rend même pas compte que Galtier, bon, même si c'est un point d'avance sur Lens ou quoi, a été champion de France. C'est un championnat qui pratiquement a été raté dans l'après-Coupe du Monde. On a l'impression d'avoir eu deux championnats. Et donc, ça, même moi, qui suis quand même un petit peu expérimenté, je me dis, merde, c'est vrai qu'il a quand même été champion de France. Donc, j'ai l'impression qu'entre la Coupe de France, contre l'OM, entre le championnat de France limite la Champions League qui a été ratée, on pense à une saison ratée avant de penser aux Parisiens, aux Marseillais parisiens qui va revenir à Marseille. Et effectivement, après, on se dit, merde, il a quand même été champion de France. Mais on peut rajouter aussi, Bon, quand tu es au Paris Saint-Germain, c'est quand même une certaine logique d'être champion de France. Là où je trouve plus extraordinaire, c'est d'être champion avec Lille, justement contre le Paris Saint-Germain.
Oui, c'est ça surtout. Parce que pour moi, la saison de Galtier au PSG, elle est ratée dans les résultats. Parce qu'on sait que l'objectif, c'était la Ligue des Champions. Et sortir en huitième, d'autant plus avec ce truc où tu finis deuxième de poule, c'est un peu gênant. Et puis, il y a surtout la forme. C'est-à-dire toutes ces humiliations au cours de la saison, ce truc de ne pas savoir que tu es premier ou deuxième de poule à l'issue du match, ces humiliations à Monaco, là où il est totalement destitué par Luis Campos dans le vestiaire quasiment, qui fait une causerie à sa place. Enfin, il y a plein de trucs qui font qu'on a limite de la peine pour lui. Que sa saison soit ratée au PSG, il n'y a pas de souci. Par contre, de là à dire que Galtier est un mauvais coach, et je comprends le positionnement d'Eric, il ne faut pas oublier que c'est un mec... Quand il est arrivé à Saint-Etienne, il en a fait un candidat régulier à l'Europe.
Exactement.
Et on a bien vu qu'à part lui, personne n'est capable de faire ça. De Lille, il est allé les prendre au bord de la relégation. Ouais, il en a fait un champion de France. Nice, il les a fait être européens. Et quand on regarde bien Nice, ça leur arrive non plus pas souvent et loin d'être toutes les années. Donc, on ne peut pas non plus de décréter, juste parce qu'il s'est manqué une année à Paris, de dire que Galtier, c'est un mauvais coach. Après, sur le côté OM, ça va très vite. Hein. Oui. Par rapport à ce que tu disais en termes d'acceptation, et je vais toujours prendre cet exemple, mais parce qu'il est en face de moi, c'est mieux de parler quand il est là que quand il n'est pas là. Mais je me souviens très bien, parce que des rumeurs de retour de Courbis à l'OM, il y en a eu 187. 188 exactement, j'en ai oublié une, excusez-moi. Mais quand ça s'est fait 12 mois, 18 mois après son départ, et pourquoi Courbis, c'est fini, c'est bon. Mais par contre, 2-3 années après, alors qu'il y a eu 2-3 saisons moyennes à l'OM et que de son côté, lui, bah, il était venu avec Ajaccio, Gagné et compagnie, quand ça revenait, pourquoi pas. Ouais. Et c'est pas que les gens soient amnésiques, c'est que c'est une partie de mécontents qui s'expriment et c'est une autre partie, l'autre camp d'en face qui a plus l'opportunité de s'exprimer avec les forts des résultats 2-3 ans après.
Alors, autres arguments avancés par Eric Dimeco cette semaine, c'était dans Rotten sans flamme cette fois-ci. La légende de l'OM, qui est un proche avoué de Galette, a dressé le fameux profil idéal pour un entraîneur de l'OM.
Donc, on nous explique que il faut qu'il soit entraîneur de haut niveau, ça c'est la moindre des choses, qu'il connaisse la Ligue 1, qu'il parle français. Bon, mais cette année, on en a eu qui ne parlait pas français, par exemple, et l'année avant non plus. Qui ait gagné des titres et donc qui ait de certaines auras dans un vestiaire, qui soit imprégné un peu de cette ville, tu vois, ou qui s'imprègne assez rapidement. Voilà, parce que c'est pas évident, certaines n'ont jamais pris la mesure de cette ville-là. Et alors en plus, la cerise sur le gâteau, tu vois, un mec qui soit du cru, par exemple, tu vois, s'il pouvait être du coin et tout. Et là, on en a un qui est sur le marché et qui a tous les critères.
Voilà. Est-ce qu'il a tous les critères, comme dit Eric, finalement ? C'est un peu dans le prolongement de la discussion qu'on avait là, mais il énumère pas mal d'arguments aussi, Eric.
Je ne vais pas donner une leçon de français, j'en suis incapable. Entre est-ce qu'il a les critères ou est-ce qu'il aurait les critères ? Je préférerais est-ce qu'il aurait les critères, mais après un an de repos.
Non, mais juste pour... Je ne vais pas me permettre de corriger Eric, il va vite me rattraper, il va m'attendre à la gare, là, il va me tirer les oreilles. Mais il s'est trompé sur le portrait dressé par Pablo Longoria. Pablo Longoria a dit « Je veux un entraîneur qui parle français ou qui soit dans l'optique de parler français dès la fin de la première saison. » Et il a dit ça, que c'est valable.
Oui, mais là, tu vas recommencer à zéro.
C'est pas pareil. Oui. Ce qui veut dire que tu peux aller... Et moi, j'aime bien cette idée d'aller chercher quelqu'un qui n'est pas forcément du sérail, du technico-français et compagnie, mais par contre, qui fasse l'effort de s'intégrer à Marseille. Et ça correspond à Marseille. On ne va pas refaire l'histoire de la ville, mais voilà, qui est un port et qui se nourrit, on va dire, des populations étrangères. Moi, de prendre quelqu'un qui arrive et qui s'intègre à Marseille, je trouve ça bien et qui fait l'effort. Ce que ne faisait pas, et si Pablo Longoria dit ça, c'est qu'il faisait référence à Tudor, ouais, qui n'a pas pris un seul cours de français et qui, pour la petite histoire, a rendu les clés de son appartement dès le mois de février. C'est-à-dire que Igor Tudor louait un appartement à Marseille et dès le mois de février, il a dit merci, tenez, je vous le rends, ça ne sert à rien de toute façon. Et il a fini la saison à dormir à la commanderie. Donc, dans le facteur je cherche à m'intégrer, je cherche à être, à être plus marseillais que les Marseillais, qui ne sont généralement pas originaires de Marseille, c'est bien connu. Eh ben voilà, ça fait pas mouche, mais
après,
c'est pas
les
pour autant qu'on
à Marseille aussi, non ?
C'est peut-être
Jérôme
ça.
Thomas me souffle ça dans les ordres, il a vérifié là, le prix du mètre carré à Marseille.
C'est après, Igor Tudor s'y demande, on a 2-3 combines Airbnb, tu sais, c'est comme Spalletti à Naples, avec les résultats, on peut te rendre des volants, on peut tout faire. Si pour baisser les prix, on peut les baisser.
T'en penses quoi de ça, Roland ? C'est vrai que finalement, dans ce que dit Romain, c'est vrai, mais si tu repars avec un coach étranger qui parle pas français, tu repars à zéro une nouvelle fois.
Complètement, mais je pense que c'est presque indispensable pour moi, pas seulement pour la France, quel que soit le pays, même si à l'intérieur du vestiaire, tu as souvent plusieurs nationalités différentes, ça me paraît quand même être quelque chose de très important. Donc là, je regarde, j'ai fait le tour, on en discutait. Par exemple, un garçon comme Conceição, pour moi, pourrait être le profil.
Qui a annoncé à Naples aussi, d'ailleurs, comme Galtier.
En connaissant le football français, et pour en revenir à Christophe, je le vois avec, pour moi, le besoin indispensable de se reposer, parce qu'on ne se rend pas compte, je le dis pourtant suffisamment, et ça j'en suis sûr, que le métier d'entraîneur, il est aussi passionnant que difficile. Mais le métier d'entraîneur à Paris Saint-Germain, à l'OM ou à Lyon, il est encore plus difficile. Ça ne veut pas dire que dans les autres clubs, c'est facile. Mais là, c'est vraiment très difficile. Tu termines les saisons. On a vu un petit peu la tête et le profil de certains joueurs. Je pense à Didier Deschamps, ouais, à sa troisième année à l'Olympique de Marseille.
Il était bouffi, ouais.
Je ne me rappelle pas de la mienne à la troisième année, puisque j'ai fait deux demi. Oui. Mais je devais être fatigué et avoir les cernes aussi. Là, je maintiens qu'il est indispensable de trouver un entraîneur. Et quand on me parle d'un profil d'entraîneur, je vais essayer quand même de me mettre à la place d'un supporter marseillais. Quand on a ce stade, et qu'on a la chance que justement je n'ai pas eu d'avoir un stade comme ça, pour moi ce stade-là doit être un 12e homme. Avoir un entraîneur qui est capable de perdre 26 points à domicile la saison dernière et 23 la saison d'avant et 23 la saison dernière, je ne parle même pas de la défaite contre Annecy, contre Tottenham et contre Francfort, c'est cet entraîneur-là qu'il faut arriver à trouver,
oui,
que le public marseillais ait l'impression d'être 12e homme de son, ouais, équipe. Ce qui, depuis deux saisons, je suis désolé, mais ce n'est pas le cas.
Et tu devrais rajouter, Roland, dans ce bilan au Vélodrome, quand même, le concert de Beyoncé, quand même, il faut balancer.
ou d'ailleurs, ça. Romain a pioché pas mal d'infos, mais ça, c'est un autre débat. On continue sur
de quoi, je peux continuer ?
Beyoncé.
Ah oui,
ok. On continue sur... On a rattrapé des points, peut-être.
La possibilité Galtier-LOM qui continue de diviser. Tiens, pour Daniel Riolo, dans l'after, bien sûr, nommé Galtier, serait un aveu d'échec pour Pablo Longoria.
Que l'OM aille prendre l'homme qui est en situation d'échec au Paris Saint-Germain et qui s'est pris un coup de chausson au PSG, je trouve que c'est... Enfin, moi, je suis président de l'OM, c'est presque un aveu d'impuissance, un aveu d'échec d'aller chercher le mec qui s'est planté au PSG.
Comment ? T'es d'accord avec Daniel ?
En fait, je cherche dans mon esprit un peu les coachs qui ont fait cette situation-là pour voir un peu comment ça s'est passé. J'ai forcément en tête Villas-Boas qui avait fait après Chelsea Tottenham, et on sait que ce n'est pas des clubs vraiment, vraiment copains. Il y a l'exemple de... Alors, tu vas me pardonner la prononciation, mais Jorge
Jesus.
Comment, explique-moi un peu, parce qu'il avait fait Benfica et Sporting.
Alors, je vais vous faire un truc direct, c'est qu'il faut savoir qu'au Portugal, passer de l'ennemi au rival et du rival à l'ennemi, c'est dans l'ADN du foot portugais. Ouais, mais d'ailleurs, je vais même vous dire, mais on en parlait avec les joueurs tout à l'heure, le nombre de joueurs qui ont fait PSG-Marseille et Marseille-PSG, ok, ça s'est moins fait chez les entraîneurs, peut-être pour des questions de circonstances, mais ça fait partie de l'histoire des rivalités, pas d'aller d'un rival à un autre. Voilà. Mourinho a fait 4 ans au Barça, il a fait le Real, il a fait le Benfica, il a fait Porto, il a fait Tottenham, il a fait Chelsea.
Mais Jorge Jesus, Georges, pardon.
Il n'y a pas de crotte en portant.
Il a réussi plus ou à Benfica ou au Sporting?
Non, Benfica, indéniablement.
Et quand il est allé au Sporting, ça c'est...
Ça s'est moins bien passé sportivement. Mais pourquoi tu me dis ça ?
Mais non, et pour savoir un peu, parce que je pense que peut-être quand...
Il y a Ruben Amorim qui est champion avec le Sporting, et c'est un joueur qui a fait toute sa carrière au Benfica, qui est socio du Benfica.
Mais ça, il est socio carrément.
Oui, il est socio. Ouais. Mais ça fait partie de l'histoire des clubs. Voilà. Mais pourquoi tu voulais rebondir là-dessus ?
Mais non, mais parce que ça m'intéresse, parce que psychologiquement, et je suis d'accord avec...
Mais tu réponds pas, Daniel, ce serait un aveu d'échec pour toi que Longoria aille chercher Galtier ou pas ?
S'il correspond à son plan à Longoria, pourquoi pas ? C'est-à-dire que si tu vas le chercher dans un besoin précis, si tu fais une Mathieu Bodmer, tu es en situation d'échec là, mais moi je sais que toi tu peux réussir dans ce schéma, voilà. Bon, ok, là je ne pense pas que ça soit le cas. Mais encore une fois, je ne pense vraiment pas que Christophe Galtier soit vraiment dans la course pour être entraîneur de l'OM.
Ouais.
Tu vois, je pense que les autres pistes sont bien plus avancées.
Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Roland. Daniel, il parle de situation d'échec. Il a quand même pas. Est-ce que c'est vraiment un échec, d'ailleurs, ce qu'a fait Galtier au Paris Saint-Germain ? Est-ce que d'aller chercher l'entraîneur champion de France avec le PSG, c'est un échec ?
Ça serait surprenant. Mais l'échec, on ne va pas quand même donner un échec avant même d'avoir commencé la saison. Donc savoir si Galtier, ça serait un échec, eh bien attendons un peu si c'est lui le futur entraîneur de l'OM. On ne va pas dire à l'intersaison, tiens l'échec.
Ouais. Mais d'autant plus que, rappelle-toi ce qui s'est passé, Nico, l'an dernier, quand Igor Tudor est nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille, la première réaction, c'est de dire « Eh ouais, mais on n'a pas pris De Zerbi, on est allé chercher Tudor, ouais, il a fait l'AS Vérone, machin, tout ça ». Au final, je ne dis pas que la saison d'Igor Tudor est une réussite de l'Olympique de Marseille, loin de là, mais par rapport à la réaction première qui a été celle de tout le monde à sa nomination, bah oui, son estime est bien plus haute parce qu'on a vu un entraîneur au-delà du côté résultat qui est toujours discutable, mais qui a imprimé une façon de jeu. On ne pensait pas ça au tout départ d'Igor Tudor. Donc voilà.
Bah justement,
inquiétante quand même pour la saison d'après.
Oui. Justement, tiens, on parlait du départ d'Igor Tudor. Juste après, Pablo Longoria s'est prononcé sur le style d'entraîneur qu'il aimerait à l'OM. Alors, il veut du rock et de l'épicé.
Il y a un style qui doit être clé. Parce que spécialement, on doit faire du vélodrome une force et pas une faiblesse. Et pour faire du vélodrome une force et pas une faiblesse, on doit jouer dans une façon qui plaît à notre public, que c'est un public passionnel. Et comme tous les publics passionnels, tu as besoin d'avoir un jeu offensif avec une transition offensive qui met de la vitesse, si on peut dire comme concept général, un peu de rock and roll, un peu de pimenter dans la façon de jouer à niveau offensif.
Voilà, ça rejoint ce que tu disais, hein, Roland, tout à l'heure. Tu parlais des résultats au Vélodrome.
C'est pour ça que ça me fait sourire.
Mais juste une chose quand même, il parle de rock and roll, de jeu offensif, de jeu pimenté, Pablo Longoria. Est-ce qu'il a ce profil-là, Christophe Galtier, finalement? Est-ce qu'il colle au profil que veut Pablo Longoria?
Ben, tout dépendra de l'effectif qu'il peut avoir. Donc, je crois qu'on est dans une époque où des conneries, on en fait tous. Et moi, je suis bien placé pour le savoir, moi aussi. Mais il y a certaines que je ne fais pas ou que je ne fais plus. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un pronostic d'un nouvel entraîneur qui arrive dans un nouveau club sans savoir l'effectif. Ah, ouais. Excusez-moi quand même.
Il y a une philosophie, une sensibilité.
La philosophie, tu peux la faire aussi. C'est une philosophie de possession. Quand par exemple, on regarde l'entraîneur de Lille. Et celui-là, je le prends tous les jours. Le seul truc qu'il faudra quand même vérifier, c'est qu'il y ait un petit peu plus d'adresse sur les joueurs qui doivent s'occuper de la finition. Parce que la construction des occasions, il y en a. Et là, c'est sincèrement, savoir comment va jouer l'OM, dans quelle formule, dans quel mécanisme. Est-ce que l'entraîneur, ça va être un entraîneur capable de donner au moins deux organisations différentes à ces joueurs? Faut-il en avoir encore l'effectif? Quand on joue un match tous les trois jours et qu'on a Tudor comme entraîneur, on se dit vivement qu'il y a un match tous les huit jours, parce que même tous les huit jours, je ne sais pas si en faisant jouer toujours les neuf ou dix mêmes joueurs, on peut faire d'un effectif avec cinq changements un effectif qui arrive à n'avoir plus d'essence dès qu'il y a les matchs tous les trois jours. C'est tous des petits trucs, Nicolas, ouais, qu'il faut quand même s'en occuper. Et après, on pourra parler de qui sera le meilleur entraîneur possible. Et ça sera en fonction d'un effectif avec beaucoup de précision pour que cet effectif soit bien équilibré et complémentaire.
Romain, quand t'entends Longoria parler de jeu offensif, pimenté, rock'n'roll.
Oui, c'était ma question en plus.
Ouais.
En quoi, je pense, ouais, dire.
Ouais, bah voilà, excellente question, excellente réponse également. Est-ce que toi, ça te fait tilt? Tu dis, ouais, ça colle à Galtier? Ou tu dis, comme Roland, ça dépend de qui il a.
Mais totalement. Parce que Lille, pour moi, Lille, c'était pimenté.
Ouais, alors que Nice, ça l'était beaucoup moins déjà.
Quand je vois Burak Yılmaz la saison avec Jonathan David,
Renato Sanchez
qui était déjà là, voilà, l'équipe qui avait été fondée, moi, ce 4-4-2, ça me plaisait beaucoup. Et je me dis, tiens, c'est possible.
Un 4-2 avec minimum 5 joueurs offensifs.
Là, c'est ce qui était. C'est possible quand tu as l'effectif pour le faire.
Ben oui.
À une période à Saint-Etienne, ce n'était pas très pimenté. Mais parce qu'il fallait jouer avec Henri Cévé, Jérémy Clément, Fabien Lemoine. On les embrasse. C'est moins pimenté, c'est moins rock'n'roll. Voilà.
Les gars, pour finir, est-ce que Galtier à l'OM, c'est une idée de fou, une idée de génie, ou alors c'est une idée de fada?
Une idée surprenante.
De fada, donc.
Mais je dirais une idée en avance pour moi sur ce qui serait une bonne solution pour tout le monde, et pour Christophe, et pour l'OM. Mais là, dans cette intersaison-là, je maintiens pour la santé de Christophe, il faut qu'il se repose.
Tu dis quoi? T'as une idée de fou, idée de fada, Galtier à l'OM?
Une idée signature. tu sais ce que ça veut dire, non, je fais une idée signature. Une idée signature, c'est que si tu es président, que tu nommes cet entraîneur-là et que ça marche,
tu marqueras les
derrière, tu marques les esprits. On revient, tu as évoqué Pape Diouf en début d'émission. Quand Pape Diouf va chercher Eric Gerets, oui, il a été champion des Pays-Bas, il n'y a que lui qui le connaît. Ouais. Quand Eric Gerets arrive à l'OM, à part Pape Diouf, personne n'y a pensé. Eric Gerets devient le coach et fait ce qu'il a fait à l'Olympique de Marseille. Derrière, le crédit de Pape Diouf, ça monte très très haut. Donc là, c'est pareil. Sachant que Longoria a déjà joué ça avec Tudor, ça n'a pas réussi. C'est-à-dire que ce n'est pas devenu un truc... On ne gardera pas dans le bilan de Pablo Longoria de son passage à l'OM. Oh putain, quand même, il nous a ramené Igor Tudor. Ce n'est pas non plus une catastrophe incroyable. Du coup, là, il a droit à une deuxième chance. Pour autant, je dis ça, je suis de l'avis de Roland, il ne faut pas la tenter, cette idée Galtier. Je pense que pareil, il n'est peut-être pas dans de bonnes dispositions pour ça actuellement.
Merci beaucoup Romain Canouti, qu'on retrouve bien entendu dans Génération After sur BFM Marseille également. Merci Roland Courbis, merci Jérôme Thomas à la production, merci Timothée Canaza à la réalisation. Bisous, prenez soin de vous.
RMC After Marseille.